« Monsieur, soyez remercié pour ce que vous avez fait, mais retirez-vous désormais pour ce que vous faites. » Discours de Cromwell au roi Charles Ier.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
La Grande-Bretagne est souvent appelée la mère des parlements. Et effectivement, le système parlementaire s'est organisé en Grande-Bretagne jusqu'à perdurer aujourd'hui et avoir été pendant très longtemps le modèle des régimes politiques pour les libéraux de l'Europe entière. Je vous propose donc, dans le cadre de notre chronique d'aujourd'hui, de regarder l'historicité et la longue histoire du parlementarisme britannique. Effectivement, les origines du parlementarisme peuvent se rechercher dans le Moyen Âge anglais. La date de 1215 est souvent avancée pour être la date de naissance de ce contrôle du pouvoir royal par diverses assemblées. Effectivement, en 1215, le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, affaibli face aux défaites infligées par le roi de France, Philippe Auguste, doit composer avec les représentants des barons d'Angleterre, de l'Église et également des grandes villes du royaume. Il accorde la Grande Charte, où apparaissent donc à la fois un conseil des communes, où sont représentées essentiellement la bourgeoisie urbaine, mais également une chambre des barons, qui finalement est l'ancêtre de la chambre des lords. Mais cette évolution, cette première évolution, est amplifiée au XIVe siècle avec, en 1327, la séparation de ce qu'on appelle le magnum concilium entre la chambre haute et la chambre des communes. Là apparaît bien ce système bicaméral de deux chambres qui évidemment n'a rien encore de démocratique, mais disons constitue des institutions qui doivent contrôler, gouverner la monarchie britannique en accord avec le souverain. C'est-à-dire qu'à la différence finalement de la France de la même époque, il y a deux institutions qui sont en négociation régulière avec la couronne. Ce système va fonctionner plus ou moins bien au cours du XIVe, XVe, XVIe siècle, parce qu'effectivement, au XIVe siècle, une guerre civile va déchirer l'Angleterre après la fin de la guerre de Cent Ans, et au XVIe siècle, les règnes de Henri VIII et d'Élisabeth Ière, la Grande, va finalement perdurer et faire que le pouvoir royal va rester extrêmement fort. Par contre, au XVIIe siècle, c'est un siècle capital, parce que en 1628, le Parlement de la Couronne adresse au souverain Charles Ier une pétition des droits, où les représentants des communes et des barons d'Angleterre, de l'aristocratie anglaise, estiment que le roi ne respecte pas assez les droits coutumiers qui, depuis le Moyen Âge, avaient été progressivement imposés. Le roi Charles Ier, effectivement, n'en tient pas compte, au point qu'en 1641 éclate une guerre civile. Cette guerre civile va pendant 8 ans déchirer le royaume et se terminer par l'exécution de Charles Ier. Après 10 ans de pouvoir de Cromwell, il va y avoir une restauration des Stuarts après cette république de Cromwell. Cette restauration est perçue par les élites britanniques comme devant aboutir à une espèce d'équilibre entre les diverses grandes catégories de la société anglaise et la couronne. D'ailleurs, en 1679, est adopté par le Parlement l'Habeas Corpus, c'est-à-dire un texte qui défend les libertés collectives des sujets de Sa Majesté et également les libertés individuelles. Or, ce système va connaître une dernière évolution importante, c'est la glorieuse révolution de 1688-89, où le roi Jacques II soupçonnait de vouloir réimposer le catholicisme en Angleterre et détrôné, il va d'ailleurs trouver refuge à Versailles auprès de Louis XIV, et le Parlement va adopter le Bill of Rights, c'est-à-dire un texte qui impose le système parlementaire au nouveau souverain, en l'occurrence Guillaume d'Orange. on peut estimer que véritablement cette glorieuse révolution et le Bill of Rights est finalement le véritable départ, après une naissance qui a commencé dès le XIIIe siècle, du parlementarisme anglais. Désormais, le souverain règne, mais ne gouverne pas. Par contre, effectivement, il va y avoir une organisation tout au long des XVIIIe et XIXe siècles pour que le système fonctionne. Il y a donc la Chambre des Lords, qui sont nommés par le roi, souvent sur proposition du Premier ministre, qui représente le parti dominant à la Chambre des communes. La Chambre des communes est effectivement élue, mais au XVIIIe siècle, elle est élue par une toute petite minorité d'électeurs, puisque il y a environ 150 000 électeurs au moment de la réforme de 1832. Ainsi, en ce début de XIXe siècle, il y a une Chambre des Lords qui représente l'aristocratie britannique, puis une Chambre des communes avec les députés élus par les communes anglaises, mais jusqu'en 1832, c'est essentiellement des électeurs ruraux. Et puis, il y a le souverain comme arbitre, qui est là pour représenter la continuité de la nation, la tradition historique de la Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, le souverain vient tous les ans faire le discours du trône, qui est en fait un discours programme du gouvernement qui a la majorité à la Chambre des communes. Vous l'avez compris, le parlementarisme est en fait le contrôle par les chambres, chambre des lords et chambre des communes, du gouvernement. Celui-ci ne peut faire adopter ses lois, ne peut faire adopter ses budgets et finalement ne gouverner qu'avec l'accord d'une majorité des parlementaires. En fait, le parlementarisme est bien la capacité d'un parlement de contrôler le gouvernement. Et si le gouvernement n'a pas de majorité, eh bien, le Premier ministre britannique doit porter sa démission au souverain. Mais reste tout de même une démocratisation du système, parce qu'au début du XIXe siècle, le parlementarisme anglais existe, mais il n'est pas démocratique parce que la plupart des sujets de Sa Majesté britannique ne sont pas du tout électeurs. Or, à partir de 1832, il y a une évolution qui va se développer tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Comme je le disais tout à l'heure, il y a en 1832 environ 150 000 électeurs qui sont surtout représentés dans ce que les Anglais appellent eux-mêmes les bourgs pourris ou des villes sous-représentées, c'est-à-dire en fait le monde des campagnes, des grands propriétaires terriens. À partir de la réforme de 1832, le corps électoral passe à 813 000 électeurs, avec la création de circonscriptions urbaines, par exemple la ville de Manchester, qui n'avait pas de député, en a à partir de cette réforme. Puis on agrandit le système électoral avec la réforme de 1867, où le corps électoral passe à 1,5 million de personnes, s'ouvrant ainsi aux classes moyennes. Et enfin, la réforme de 1885, avec 2,8 millions d'électeurs, qui commence donc à s'ouvrir vers le petit monde agricole et le monde ouvrier. Reste tout de même la question du suffrage universel, qu'il soit d'ailleurs masculin ou féminin. Et là, c'est la loi de 1918. Après la Première Guerre mondiale, eh bien, le Parlement britannique vote le droit d'élection pour les hommes de plus de 21 ans. Quant aux femmes, eh bien, elles pourront voter à partir de 30 ans. Et c'est la loi de 1928 qui va finalement abaisser le droit de vote des femmes à l'âge de 21 ans. Désormais, il y a bien en Grande-Bretagne un véritable système à la fois de tradition, de démocratie et de parlementarisme. Parlementarisme parce que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le Premier ministre britannique ne peut véritablement gouverner qu'avec une majorité. C'est donc indéniablement le système clé du parlementarisme. Ensuite, il y a eu effectivement une évolution démocratique. Le XIXe siècle avait été déjà très libéral, et il y avait eu un libéralisme de la presse, par exemple. Mais avec les évolutions que nous avons perçues tout à l'heure du corps électoral, il y a bien une amélioration du système démocratique et le fonctionnement du système politique anglais est bien une vraie démocratie parlementaire. Reste que les Britanniques, et d'ailleurs ça s'est vu avec ce système de loi électorale, ont préféré agir non pas par révolution brusque que la situation française, par exemple, a créée tout au long du XIXe siècle, mais par réforme progressive, ce qui a fait que finalement le système a perduré, s'est amélioré jusqu'à nos jours. Et tradition historique oblige, eh bien oui, encore aujourd'hui, le souverain britannique est le symbole de l'histoire, de l'unité, de la tradition de la Grande-Bretagne. Et ce n'est pas pour rien que l'on fête aujourd'hui les 70 ans de règne d'Élisabeth II, qui est à elle seule le symbole de cette monarchie parlementaire.